On est aujourd'hui le jeudi 13 septembre. On est le 26. Elul 26, Shem Havayé. Et c'est aujourd'hui un cours très important, très solennel, puisque c'est le dernier cours, ensemble, du moins, de l'année. Tout d'abord, le cours sera consacré aujourd'hui pour la santé, la guérison totale de Rachel Bat Simcha, ainsi que pour l'élévation des âmes de David Kadosh et Maurice Kadosh Ben Solika. En tous les cas, donc, comme je le disais, un cours solennel, je plaisante bien sûr, puisque c'est le dernier cours de l'année, et donc un cours bien sûr qui va être consacré à Rosh Hashanah, un cours que je veux simple, pas compliqué, pour pouvoir sortir de ce cours de fin d'année avec des notions qui j'espère seront claires et nous permettront de nous préparer un peu plus encore à cette fête de Sukkot. On ne va rien rajouter d'extraordinaire aujourd'hui, puisqu'on a déjà tellement parlé cette semaine de cette fête qu'on va rester dans des notions plus proches de nous. Et je tiens à préciser avant de commencer le cours ce que va être la suite des activités. Nous nous retrouvons l'année prochaine, uniquement jeudi. La semaine prochaine, qui sera donc l'année prochaine, nous nous retrouvons uniquement jeudi et non mercredi. Mercredi c'est jeûne, mais nous nous retrouvons jeudi. Puis, non, le lendemain du Tsom Gedalia. Le lendemain. Puis, la semaine d'après, nous nous retrouvons uniquement dimanche et lundi, puisque mardi, c'est déjà, mardi soir, déjà Kippour. Donc, la semaine avant Kippour, deux jours de cours, d'ailleurs jeudi, dimanche, lundi, seront consacrés bien évidemment à la fête de Kippour. Après Kippour, mardi soir, et nous arrêtons à nouveau les cours pour une période relativement longue et nous nous retrouvons seulement après la fête de Sukkot, ce qui nous amène au 14, dimanche 14 octobre. La fête de Sukkot se terminant en début de semaine, le temps de ranger les Sukkot, etc. Nous nous retrouvons pour un long cycle d'études, cette fois-ci, le dimanche 14 octobre. D'accord ? Donc, de toute façon, on enverra des SMS, tout le monde sera reprévenu à temps, mais en tous les cas, pour ceux qui ne recevront pas le SMS, c'est au moins dit dans ce cours. Quoi qu'il en soit, donc, on va revenir maintenant très vite à des notions essentielles concernant la fête de Rosh Hashanah. Nos maîtres disent que la fête, ou plutôt la prière de Rosh Hashanah, donc le travail spirituel et moral de Rosh Hashanah, repose sur trois notions que nos maîtres appellent Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Malchuyot, la royauté, Zichronot, le souvenir, mot à mot, Shofarot, le son du shofar. À quoi d'abord techniquement cet enseignement fait allusion? Effectivement, dans la prière de Moussaf, qui est la prière véritable de Rosh Hashanah, comme on le sait, chaque fête a son Moussaf, Moussaf qui signifie rajout, c'est-à-dire une prière que l'on rajoute qui est spécifique à la fête. Et donc, dans la prière de Moussaf de Rosh Hashanah, qui est d'ailleurs une très très longue prière, je parle de la Amida bien évidemment, qui est très 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 longue, dure entre un quart d'heure et 20 minutes, rien que la Amida, cette tfila est coupée en trois parties essentielles. Une partie que l'on appelle Malchuyot, où dans le texte, on rapporte et lit de nombreux versets issus et à la fois de la Torah de Moshe et à la fois de la Torah des prophètes qui nomment, désignent Hachem en tant que roi, roi du monde. Après, on arrive à un deuxième passage qu'on appelle Zichronot, qui veut dire souvenir. Ce qui est intéressant, c'est aussi l'un, si pas le plus important, des noms de la fête de Rosh Hashanah. Comment appelle-t-on la fête de Rosh Hashanah? Yom HaZikaron. Le jour du souvenir. À quoi fait allusion, s'il vous plaît, Yom HaZikaron? À quoi fait allusion cette partie Zichronot dans la Tfila du Moussaf? De quoi parlent les versets que l'on rapporte et que l'on lit? Très schématiquement, on reprend l'histoire depuis Adam Arishon et on dit Hachem n'a rien oublié, tout ce qui s'est passé, il le sait, chaque action, individuelle, collective, tout est inscrit dans son souvenir et tout converge vers un but final qui est la délivrance du monde. Ça veut dire que Zichronot signifie que même si nous, en tant qu'individus bien évidemment, et même les générations ont tendance à oublier ce qu'était le passé, et bien sûr ne savent absolument pas ce que sera le futur, et chaque vie commence et s'arrête avec elle-même, ce qui veut dire que chaque vie, ainsi que chaque génération, est comme un élément d'un puzzle complètement déconnecté de l'ensemble, d'où la pagaille de chaque génération. Ça, c'est uniquement l'histoire vue côté homme. Mais sache, dit le texte, dit la prière, que Hachem, Zocher Hakol, lui a une vue d'ensemble depuis le premier instant de l'histoire jusqu'à la finalité de l'histoire. Il sait exactement où on va, comment on y va et où on arrivera. Ça, c'est Zichronot. Et enfin, Shofarot, de nombreux versets qui rappellent l'importance du son du shofar. Le son du shofar, surtout lié, comme vous le savez, différents cours ont été consacrés à cette notion, lié à la Akeda de Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak, puisque au départ les cornes sont les cornes du bélier, et aussi, surtout dans l'histoire, le don de la Torah, puisqu'au moment où on reçoit la Torah, le son du shofar retentit, et bien sûr la délivrance finale, Utka Beshofar Gadol, que le son du grand shofar puisse retentir, l'Echerutenu, pour que nous puissions être délivrés. Donc voilà les trois thèmes fondamentaux de la prière spécifique de Rosh Hashanah. Proclamation de Dieu en tant que roi du monde. Prise de conscience que l'histoire a un sens, un commencement, une direction et une fin. Et proclamation de l'importance du son du shofar dans les moments capitaux de l'existence, création, don de la Torah et délivrance finale, les trois moments qui englobent finalement toute l'histoire. Le commencement, création, Torah, le moyen de réaliser le projet, et délivrance finale, réalisation du projet. À ces trois moments, on trouve le son du shofar. Maintenant, à notre niveau, qu'est-ce que cela signifie? Bien que j'ai pratiquement dit l'essentiel. À notre niveau, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie d'une manière très simple, et c'est la prise de conscience, la réalisation qui doit descendre, la prise de conscience et la réalisation, c'est-à-dire la descente de cette prise de conscience dans notre vécu, à partir de Rosh Hashanah et pour toute l'année qui va suivre. Encore une fois, je vais dire des choses relativement simples, mais qui sont des clés dans l'existence. Malchuyot signifie que la première chose que l'on demande à un homme de prendre conscience, c'est l'existence et la présence d'un roi. Et comme on le sait, nous, qui l'avons tellement de fois et de nombreuses fois étudié ce thème, c'est la différence fondamentale entre le Dieu créateur et le Dieu roi. Le Dieu créateur n'est pas le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël est le Dieu roi. Quelle est la différence fondamentale entre un Dieu créateur et un Dieu roi? Dieu créateur, c'est la prise de conscience que ce monde ne s'est pas fait tout seul. Mais le fait que ce monde ne s'est pas fait tout seul n'implique pas encore forcément que celui qui l'a créé s'implique dans ce monde, ne l'a pas abandonné, le dirige et le mène là où il doit arriver. Ça, c'est une prise de conscience extrêmement difficile que beaucoup de religions ont du mal à comprendre et à proclamer parce que ce monde semble se diriger d'une manière qui est tellement contraire à la direction d'un roi comme Dieu, que comment pouvoir concilier ce que l'on voit et l'affirmation que Dieu dirige son monde? C'est pour ça que les hommes, même croyants, préfèrent reconnaître un Dieu créateur et un Dieu qui nous attend dans un autre monde, le monde à venir, lorsqu'on sera enfin sorti de cette foutaise. Mais pour l'instant, Dieu n'y fait rien dans cette foutaise, parce que ce monde ne peut pas être son monde, mon royaume n'est pas de ce monde. Et donc, c'est très difficile de proclamer Dieu comme roi. C'est la raison pour laquelle, quand on a reçu les 10 commandements, le premier commandement, comme vous le savez, n'est pas « Je suis Hachem, ton Dieu, qui a créé le ciel et la terre », mais « Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte », signifie « Je suis celui qui s'implique dans l'histoire, qui rentre dans l'histoire, qui rentre dans la pourriture de ce monde pour y sortir et y construire les étincelles de bien. » Donc, je suis le Dieu des poubelles, d'une certaine manière. Je suis le Dieu des poubelles, qui l'a dit, pas moi, le petit insolent, mais pas moins que le roi David. Mais Hérod, mais Ashpot, Yarim et Vion, tu rentres dans les poubelles pour y sortir ce qui te servent. Me'ashpot yarim evyom. Donc, le roi David a affirmé que le Dieu des Juifs est le Dieu des poubelles. Donc, c'est ça, sa proclamation en tant que roi, malgré le fait qu'effectivement, sur le plan logique cartésien, il est très très difficile, voire inconcevable, d'imaginer que l'histoire puisse être entre ses mains, tellement elle semble contraire à sa direction. Mais ce n'est pas parce que je ne peux pas comprendre et résoudre cette question que je nie sa royauté. Il n'est pas seulement mon créateur, il n'est pas seulement mon père, mais il est mon roi. Être juif, c'est proclamer Dieu comme roi, plus encore que de le proclamer comme étant père, ou étant même créateur, ou même père. Parce que père n'est pas forcément celui qui s'implique. Une fois que j'ai 18 ans, 20 ans, et que je pars de chez moi, mon père ne s'implique plus forcément dans ma vie. Mais un roi s'implique constamment dans l'histoire de son peuple. Il y a une autre notion aussi extrêmement importante, encore une fois au niveau de notions très simples, mais ô combien nécessaire de se les rappeler. Dire que Dieu est roi suppose que je ne pourrai jamais, et là c'est peut-être le point le plus important, sur lequel on n'insiste pas suffisamment, dire qu'un juif proclame Dieu comme roi, c'est dire et affirmer, et le problème c'est qu'on ne s'en rend même pas compte, que je ne peux en aucun cas établir avec lui une relation personnelle, individuelle, qui ne me concerne que moi, puisqu'on n'est roi que sur un peuple. Un Dieu père peut être mon père. Un Dieu même créateur peut être mon créateur. Mais un Dieu roi ne peut pas être uniquement mon roi, parce que pour être roi, il faut forcément qu'il y en ait d'autres. Donc dès que je le proclame comme roi, je comprends deux choses. C'est que le monde a besoin aussi des autres et pas que de moi. Et je ne peux me réaliser avec ce Dieu que je proclame roi qu'à condition que mon service divin implique les autres. D'où la notion de peuple, d'où la notion de terre, d'où la raison pour laquelle il est absolument impossible de véritablement vivre la royauté divine en exil, en dehors de la terre d'Israël, puisque éparpillé aux quatre coins de la terre, comment un peuple mutilé peut-il proclamer Dieu roi sur un peuple qui n'existe pas, ou plutôt sur une nation qui n'existe pas? Seulement revenu sur sa terre, la notion de peuple a un sens, c'est la raison pour laquelle la notion de nation a un sens, et la proclamation de Dieu comme roi a un sens, c'est la raison pour laquelle ne peut véritablement être fêtée comme fête avec tout son sens de Rosh Hashanah, ne peut véritablement être fêté Rosh Hashanah qu'en Israël et nulle part ailleurs. Et donc, on comprend que, encore une fois, dans mon service divin, si je le proclame comme roi, je vais devoir me poser la question, mais qu'est-ce que je fais avec, à l'intérieur et pour mon peuple? Puisque pour que Hachem s'intéresse à moi, il faut que je vienne avec une carte d'identité de peuple. Où j'en suis avec mon peuple, ou plutôt où j'en suis avec ma nation? Qu'est-ce que je lui apporte et qu'est-ce qu'elle m'apporte? Donc tant qu'un juif continue à vivre cette forme de judaïsme d'exil, moi, ma femme, mes enfants, ma famille, ma petite communauté, mes petites mitzvot, mon petit travail et mes loisirs, et bien, tant qu'un juif continue à vivre ce judaïsme d'exil, quand il arrive à Rosh Hashanah et qu'il proclame Dieu comme roi, Dieu sans doute lui répond, roi sur qui? Sur ta tête ou sur une nation? Amène-moi la nation et après tu pourras me proclamer roi. Ça c'est Malchuyot. Zichronot, qu'est-ce que c'est? Après avoir pris conscience que mon devoir de juif est de vivre avec Hachem à chaque instant dans ma vie aujourd'hui et pas seulement le proclamer comme créateur et père. Après avoir pris conscience que tant que je ne pourrai pas prouver que j'agis à l'intérieur de ma nation, je n'ai pas commencé encore à être un juif authentique. Après se pose la question, Zichronot, mais quel est le projet? Zichronon, c'est le projet. Hachem se souvient de tout depuis le début jusqu'au milieu et vers la fin. Pourquoi? Parce que Hachem a un projet, Yom Hazikaron. Donc à partir du moment où tu prends conscience qu'il y a une volonté qui est présente dans ton existence, elle veut forcément quelque chose, cette volonté. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est quoi le projet? C'est la deuxième prise de conscience. Un juif doit vivre avec la compréhension du projet qui le concerne et qui, à l'intérieur de ce projet, le relie à la nation d'Israël. C'est pas du tout évident d'y arriver. Et c'est la raison pour laquelle la fête s'appelle Yom HaZikaron, plus que Yom HaMalchut, de la deuxième étape et non de la première, pour dire que si la première étape n'est pas évidente, la deuxième, n'en parlons pas, elle est très complexe. Vous connaissez beaucoup de juifs qui vivent avec un projet. Ne me dites pas celui de se lever le matin pour aller prier, puis partir au travail, puis après rentrer à la maison, s'occuper de sa femme et de ses enfants, puisque les Chinois et les Japonais ont le même projet. Donc pourquoi sommes-nous juifs? Donc ça ne peut pas être ça le projet d'une vie. C'est impossible, le projet d'un juif. Or effectivement, on s'aperçoit très vite que finalement, chacun, s'il fait le bilan de sa vie à 30, 40, bon 30 ans ne fait pas encore un bilan de vie, mais à partir de 40, 45, 50 et plus, finalement c'est quoi mon projet à moi? Est-ce que j'en ai un? Est-ce que je me suis posé la question, Bichlal, est-ce qu'on devait vivre avec un projet? Zichronot. Au moins pose-toi la question au début de l'année, est-ce que tu veux vivre avec un projet? Un projet, c'est pas forcément décrocher la lune. Un projet, c'est tout simplement prendre quelque chose sur soi de très concret, au-delà de son travail, de sa famille, de ses bonnes actions que l'on fait tous, plusieurs fois par jour, car il n'y a pas un juif qui n'a pas de très nombreuses bonnes actions dans une journée normale. Mais tout ça, c'est encore une fois une vie standard, la vie de monsieur tout le monde, même si ça remplit 90% de ma journée. Mais les 10% qui restent, ma touche à moi, mon projet à moi, quelque chose qui sera ma pierre apportée dans l'édifice de cette construction du monde, Altikre Banaïr et la Bonaïr ne sont les enfants d'Hachem que ceux qui construisent son monde. Où elle est ma pierre à moi? Ça c'est Zichronot. Après, on arrive à Shofarot. Shofarot, c'est le plus compliqué, puisque c'est en troisième position, forcément c'est une ascension, on monte, c'est le plus compliqué, et on va s'arrêter un petit peu, quelques minutes sur ce sujet-là. Comme je l'avais promis hier, on a vu hier, mais on n'a pas expliqué, que le shofar, et seulement le shofar, ni malchuyot, ni zichronot, a la force de déclencher le réveil de cette nouvelle lumière qui va descendre dans ce monde à partir du premier jour de l'année. Et cette lumière qui est infiniment plus haute que celle qui a brillé l'année dernière, et à combien plus forte raison celle qui brillait à l'époque du roi David, et même de Moshe Rabbeinu, selon le texte incroyable, fou, complètement fou, qu'on a lu hier. Si ça n'avait pas été écrit, jamais personne n'aurait pu imaginer, oser dire une chose pareille, qu'aujourd'hui nous avons plus de lumière potentielle, du moins, qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, selon ce que j'ai expliqué hier. Et donc, on a compris, au niveau du comment au moins, comment ça fonctionne, que dès que dans les différentes assemblées d'Israël retentit le son du shofar, à ce moment-là, les réservoirs énergétiques d'en haut s'ouvrent et le flux commence à redescendre dans ce monde et chacun le reçoit, et en priorité et en premier, nous qui vivons en Eretz Israël. Et donc, pourquoi le shofar? Alors, la raison, telle que je vais l'expliquer, n'est pas nouvelle pour les anciens, pour les vétérans. C'est une notion dont j'avais déjà souvent parlé, mais que je vais reprendre aujourd'hui avec l'état d'esprit que nous avons aujourd'hui et que nous n'avions pas hier. On sait, le monde a été créé avec la parole. Le monde a été créé avec la parole est une métaphore, bien évidemment. Dieu n'a pas de bouche, il ne parle pas. Et personne n'était là pour l'entendre, donc pourquoi se serait-il mis à parler? Le monde a été créé par la parole signifie que la création est porteuse d'un message, car généralement, lorsque quelqu'un parle, c'est pour transmettre un message. Lorsqu'un homme est seul, il pense, mais il ne parle pas. Dès qu'il y a autrui, dès qu'il y a volonté de communication, de transmission, automatiquement il y a parole. Ou écriture, qui est une autre forme de parole, mais c'est la même notion à des niveaux différents. Au niveau de la forme, mais pas au niveau du fond. Donc le langage est un moyen de transmettre. Si le monde a été créé avec la parole, l'explication est simple pour celui qui a un minimum de compréhension du texte et qui ne se laisse pas piéger par la forme extérieure qui n'est qu'une parabole et un code. Dieu parle signifie que Dieu transmet un message, Et comme chaque élément de la création a été créé avec une parole, cela signifie qu'il n'y a rien dans ce monde qui ne soit pas pour moi un message. Par exemple, quand je bois tous les matins ce café, dans ce verre, si je m'arrête 30 secondes, je me rappelle, grâce à ce verre, que tu ne peux rien obtenir dans ce monde si tu ne présentes pas un réceptacle. C'est pour ça que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il n'y avait que des intentions. Il n'y avait aucun moyen de les réaliser. Et ces intentions servent de pavé à l'enfer. Et donc, automatiquement, chaque chose dans ce monde peut être le sujet à une prise de conscience. Pourquoi j'ai deux mains, une droite, une gauche? Parce que l'homme doit constamment agir sur deux plans à la fois, donner, mais savoir aussi retenir. Parce que tu ne peux pas que donner, mais tu ne peux pas que retenir. Pourquoi cinq doigts et cinq doigts? Parce qu'il y a cinq forces, cinq attributs divins, cinq forces à droite, cinq forces à gauche, etc., etc. Pourquoi les bras commencent au-dessus des poumons, qui sont la respiration, qui sont la vie? Parce que ne vit que celui qui agit, l'action est au-dessus de la vie, ou plutôt l'action est la forme la plus élevée de la vie. Et pourquoi les mains descendent jusqu'en dessous des poumons, qui sont l'endroit de la respiration de la vie? Pour nous faire comprendre que le but n'est pas uniquement de construire de grandes choses, mais même descendre dans les moindres détails de l'existence, et construire même les bas-fonds de ce monde, et pas seulement un monde pour les initiés, les grands et les saints. Mais même les voyous ont une place dans ce monde, et eux aussi, il faut les construire. Voilà comment, très simplement, un homme peut passer sa vie, comprendre que le monde lui parle. Combien de fois je vous ai raconté cette histoire extraordinaire de la première rencontre telle que Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, celui qui allait devenir l'élève de Rabbi Nachman, en témoigne lui-même dans un livre de... où il raconte un petit peu sa vie, surtout la vie de sa rencontre avec Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, dès qu'il voit rentrer devant lui celui qui va devenir son héritier spirituel et qui va transmettre toute sa Torah, à ce moment-là, lui parle, etc. Et puis tout d'un coup, il se met à se gratter avec le petit doigt sur le côté droit du cou. Ça dure quelques secondes. Bon, Rabbi Nathan, à ce moment-là, est en train de réfléchir à ce qu'il vient d'entendre. Et puis après, Rabbi Nachman continue la conversation, puis il s'arrête, il dit, au fait, qu'est-ce que je viens de faire il y a quelques secondes? Il lui répond, Rabbi, vous vous êtes gratté? Il dit, comment je me suis gratté? Il lui dit, Nathan, tant que tu penseras qu'un homme se gratte, alors ne rentre pas chez moi. Un homme ne se gratte pas. Et il lui explique le secret de l'action. Le coup fait allusion au Beth Amikdash, comme nous le savons. Le côté droit du temple, le côté gauche du temple, les cinq doigts de la main. À quoi correspond ce doigt-là? Quelle sphira? Il dit, à ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait une zéra, un décret contre le peuple juif, et j'étais en train de prier pour que le décret soit annulé. Ça veut dire que ce sont des hommes qui vivent à ce niveau où un acte quelconque, anodin, prend un sens incroyable. Maintenant, écoutez l'explication extraordinaire. Rabbi Nathan explique qu'en vérité, c'est pas qu'il a inventé un grattage pour faire passer un message. Béhémet, ça le grattait. Mais la différence entre un rabbi et nous, c'est que nous, on se gratte parce que ça nous gratte. Lui, il s'est posé la question, mais pourquoi ça me gratte à ce moment-là? Et il a compris que c'était un signal qu'on lui envoyait pour prier contre un décret qui était en train d'être décidé dans les hautes sphères du tsar à ce moment-là, et lui, animé de son bras Kodesh, l'a senti et a prié à ce moment-là. Il a compris que c'était un message. Chaque situation dans l'existence est un message. C'est pour ça que le monde a été créé avec la parole, parce que justement, c'est un langage, la vie est un langage. Derech Agav, sans vouloir faire le malin, vous savez tous aujourd'hui que les dernières découvertes scientifiques montrent que la matière élémentaire, ce qui compose l'essence de la matière, ce n'est que du langage, ce n'est que des paroles, des vibrations et de la communication entre des forces, que l'on appelle clairement aujourd'hui dans les livres qui sont à la haute pointe de la science, le langage du monde. Le monde parle, ce ne sont que des échanges, que de la communication. Comment? Et donc pourquoi? Mais les savants ne peuvent retrouver que ce que la Torah a toujours dit. La Torah est en avance sur tous les prix Nobel que l'on recevra encore dans 1000 ans. La Torah est encore en avance. Le problème, c'est qu'il a fallu attendre ces dernières années pour commencer à mériter de décrypter la Torah et de la comprendre telle qu'elle avait toujours été écrite, mais ne pouvait être comprise que par les grands d'Israël de génération en génération. Et notre génération a eu ce mérite incroyable de bénéficier de l'ouverture des portes des secrets, même pour des gens comme vous et moi. Et c'est ça toute la différence entre la génération précédente et la nôtre, qui est la génération de la délivrance, où comme l'avait déjà dit dans le Zohar Rabbi Shimon Bar Yochai, juste avant la délivrance finale, les portes du ciel vont s'ouvrir et un flux de sagesse descendra dans le monde, et même les petits-enfants se mettront à prophétiser, ce qu'il faut comprendre, même des gens comme vous et moi, qui sommes de petits-enfants au regard des grands véritables, se mettront à comprendre des choses qui n'étaient accessibles que par l'élite spirituelle d'Israël pendant des millénaires. Et donc, ça c'est Zichrono, ça c'est la création du monde avec la parole. Maintenant, vous remarquerez quelque chose d'extrêmement paradoxal. À Rosh Hashanah, alors que l'on fête la création du monde par la parole, nous sonnons du shofar, c'est-à-dire nous prononçons un bruit sans parole. Comme les films de Charlot des années 50. Un film sans parole. Un son. C'est un film, parce qu'il est très évocateur. Chaque son représente des choses inimaginables. Le nombre de sons, le nombre de sonneries, la manière dont on les sonne, le long avec l'entrecoupé, ou le long avec le court-court, ou bien le long avec l'entrecoupé et le court-court, puis terminé d'un long. Vous imaginez, l'éternité ne nous suffira pas pour comprendre le secret de ces 100 sons que l'on sonne pendant la fête de Rosh Hashanah. 100. À des moments différents, mais en tout, il y en a 100. Il n'y en a pas un pratiquement qui ressemble à l'autre. Et donc, ces sons, véritablement, transmettent un message. Mais transmettent un message sans parole. C'est tout le contraire, précisément. C'est un souffle sans parole, qui est l'intériorité du langage, puisque chaque parole est aussi et surtout un son. En vérité, qu'est-ce que c'est un langage ? C'est un tout, mais un tout qui, travaillé par la bouche, devient des mots. Mais c'est un son. Là, on prend un instrument qui empêche le travail sur le son, et donc le son tel qu'il sort des poumons sort de la corne, et ça reste un son. Volontairement, le but est de ne pas présenter un langage, mais un son. Quel est donc le message ? Le message, à notre niveau bien sûr, car comme je viens de le dire, je le répète, l'éternité ne suffira pas pour expliquer chacun des détails de ce qui se passe au moment où nous sonnons du shofar, mais à notre niveau extrêmement simple, le son du shofar veut nous faire comprendre la chose suivante, et c'est pour ça que c'est la troisième étape. Première étape, un homme prend conscience qu'il n'est pas seul, qu'il y a une présence qui le dirige, lui et son peuple, vers un but qui est le but de la création. Deuxième prise de conscience, c'est que la vie donc a un sens, l'histoire a un sens, et c'est ça Zichronot, Hachem sait pourquoi et quand il a commencé, il contrôle chaque événement, et tout converge vers la réalisation du projet. Zichronot, Hachem se souvient de tout. Shofarot, c'est quoi ? Pourquoi ce son sans parole ? À notre niveau, cela signifie que l'homme doit savoir que très souvent, ou trop souvent, il ne peut plus rien comprendre. Il est absolument impossible de déchiffrer le message. C'est un son sans parole. Parce que si on s'était arrêté à Zichronot, on aurait pu croire que si l'homme fait l'effort de comprendre, il comprendra. Puisqu'il y a une direction, il y a un sens. Si je veux comprendre, je pourrai comprendre. Vient Shofarot, lui dit non. Sache que quel que soit ton niveau et quelle que soit ta volonté sincère de comprendre, pour l'instant tu ne pourras pas tout comprendre. Il y a des moments, des périodes, des événements dans l'existence qui sont comme un son sans parole. Le message est transmis, mais personne ne peut le déchiffrer, personne ne peut le décrypter. Des événements du type chauffard dans l'existence, il y en a tellement eu. Bon comme mauvais, malheureusement, surtout plus mauvais que bon. C'est là qu'on comprend plus cette notion de message sans parole. Que ça nous amène au résumé de ce genre de situation, résumé si bien par nos maîtres dans le Talmud. Lorsque Moshe arrive, disent nos maîtres, jusqu'à la 49e porte de la sagesse, et que la 50e va s'ouvrir, qu'à ce moment-là, Hachem lui dit, regarde, c'est un Et Ratzon. Il y a maintenant un moment propice, privilégié, voilà, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai une réponse. Moshe lui pose une seule question, il dit, regarde maître, je veux juste comprendre une seule chose. Pourquoi les justes souffrent tant et les méchants prospèrent-ils tant ? Hachem lui répond, mince, j'avais oublié de te dire que je répondrai à toutes les questions sauf à celle-là. Et il est resté sans réponse. Ça veut dire que il y a toujours cette 50e porte qui est la porte de la délivrance qui ne s'ouvrira qu'au moment de la délivrance et pour l'instant elle est un son sans parole. Et ce son sans parole nous indique que même si l'homme a pris conscience qu'il y a une présence qui est là et qui dirige, même si l'homme prend conscience qu'il y a un sens et que l'on peut en comprendre énormément d'aspects à ce sens, à cette direction, mais sache qu'il y a, quoi qu'il en soit, énormément de trous noirs dans l'existence et dans l'histoire qui rendent impossible la compréhension et surtout n'y mets pas ta tête parce que tu vas comme dans un trou noir te faire déchiqueter. Il ne va rien rester de toi. Comme cette phrase que j'ai rapportée, je pense qu'on a dépassé le millier de fois, cette fois que je vais la répéter de plus, cette phrase incroyable de ce rabbi qui après la Shoah retrouve l'un de ses chassidim, et les deux ont laissé tout ce qu'ils avaient, deux survivants, et une rencontre après des années de séparation, les deux ont traversé les sept souterrains de l'enfer, comme on les appelle, et ils se retrouvent, le rabbi est en face du chassid, et dans cet échange de regards, c'est toute la famille et tout ce qu'on avait qui passe et dont on se rappelle. Et le rabbi coupe le silence et prend la parole le premier et dit à son élève, il lui dit, sache, pour celui qui a la émouna, pour celui qui a la foi, il n'y a pas de question. Pour celui qui n'a pas la foi, il n'y a pas de réponse. Donc choisis ton camp. Celui qui a la foi, il n'y a pas de question, signifie, bien sûr qu'il y a une question. Ce rabbi avait laissé une femme et, une femme et 11 enfants. Bien sûr qu'il y a une question. Mais le problème, c'est que la foi est au-dessus de la question parce que la foi est au niveau du chauffard. Il y a un message. Je ne comprends pas. Mais je m'accroche de toutes ces forces à ce message qui, pour l'instant, ne peut pas passer par une bouche. Comme disait Hillel, de la même manière qu'un homme a le devoir de dire ce qui peut être entendu, il a le devoir de se taire lorsqu'il sait qu'il n'a pas en face de lui une oreille pour le comprendre. Et donc Hachem aussi parfois se tait, le fameux silence de Dieu. Parfois il se tait parce qu'il sait qu'aucune oreille sur terre ne pourra comprendre pourquoi. Mais par contre il envoie au plus profond de nos âmes le son du chauffard. Qu'est-ce qui fait que notre peuple a traversé l'histoire et combien de ce genre d'histoire ? Parce qu'à chaque fois au plus profond de l'âme juive, retentissait le son du chauffard qui signifie ce message venu d'en haut qui nous dit « Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais sachez que ça a un sens, c'est moi qui vous l'affirme. » Et à l'intérieur de l'âme juive retentit ce son et c'est ce qui nous permet en 45 de sortir d'Auschwitz, en 48 d'être à nouveau sur notre terre et de proclamer la naissance de notre État. En 3 ans seulement, parce que le son du chauffard, le son de la délivrance retentit au plus profond de l'âme juive, c'est vrai au niveau collectif et c'est bien sûr vrai aussi au niveau individuel, c'est ce qui permet à chacun d'entre nous de traverser sain et sauf tous les moments durs de l'existence, parce que lorsqu'on a le mérite à ce moment-là d'entendre le son du chauffard, même si on reste sans réponse, on est sûr que ça a un sens et on trouve la force de continuer. Donc voilà ce que représente le son du chauffard. Finalement, le projet de Rosh Hashanah, comme vous l'avez compris, c'est le projet de toute l'histoire individuelle et collective de l'homme. L'homme, pour réussir sa vie, a besoin de construire son existence sur ces 3 piliers fondamentaux. Savoir qu'il n'est pas seul, il n'est que le serviteur d'eux. Savoir que ce roi qui est à ses côtés le tient dans sa main et le dirige vers quelque chose qui a un sens qu'on ne peut même pas imaginer. Et tenir bon à l'intérieur de ce sens, de cette direction, parce que l'existence est traversée de tellement de trous noirs que si on ne s'accroche pas à ce son du chauffard, alors on ne peut pas traverser sain et sauf l'existence. On comprend maintenant pourquoi j'ai pratiquement terminé. On comprend, enfin terminé, après on fera juste une petite lecture ensemble pour couronner le cours. On comprend maintenant pourquoi la lumière avant de redescendre. Attends le son du chauffard. Pourquoi? Parce que c'est le chauffard qui va être déterminant. Ça ne suffit pas de savoir que Dieu est roi si dès qu'on prend la première claque, on s'écroule. Ça ne suffit pas de savoir que la vie a un sens si dès qu'on prend un coup de poing, on s'écroule. Ce qu'il faut, c'est être capable d'encaisser tous les coups et de continuer. C'est le son du chauffard. Je n'ai pas besoin de comprendre le message. Je sais qu'il y a un message. Je continue avec toi, maître du monde. Et pourquoi ces trois sons? C'est très facile à comprendre. Tout le long son est la proclamation du sens profond de l'existence, même quand on n'arrive plus à le transformer en parole. Le tout, entrecoupé, vient nous faire comprendre que même lorsque il y a des brisures dans l'existence, on continue et on s'accroche. Et tout, et même lorsque les brisures sont telles que je n'ai même pas le temps de m'en relever d'une, que vient déjà l'autre, comme disent nos maîtres, que parfois l'existence est telle que l'homme n'a même pas le temps de digérer un problème que déjà il est confronté à un autre, c'est le tout, même à ce moment-là, je continue à m'accrocher. Et c'est pour ça que les sons se terminent toujours par le long son. Quels que soient les sons intermédiaires, tout, tu termines toujours par le long tout. Ça veut dire la reprise de conscience que tout a un sens et que tout se terminera bien. Et de toute façon, est déjà bien, même si on ne le comprend pas. Voilà en ce qui concerne Rosh Hashanah. Je voulais lier ce cours-là qui finit tous les cours de Rosh Hashanah avec un passage extraordinaire que vous connaissez tous, de la parcha de cette semaine, Nitzavim, que nous lisons toujours depuis 3500 ans, le Shabbat avant Rosh Hashanah. Une parasha fabuleuse qui parle de la délivrance finale. C'est pas pour rien qu'elle tombe toujours avant Rosh Hashanah. Et on va relire ensemble, sans trop les interpréter, parce que la traduction est déjà, d'une certaine manière, tellement forte, mais le relire ensemble. Dans Parshat Nitzavim, dans la quatrième montée, le verset dit « Ve'aya ki yavu alecha kol advarim ha'ele » Après que tu aies traversé tout ce dont je te parle, Hachem parle dans la Torah, « Abracha ve'aklala » Après que tu aies traversé et reçu les bénédictions et les malédictions, parce qu'une existence toute blanche n'existe pas, et toute noire non plus, tout jour ou tout nuit, ça n'existe pas non plus. Il y a toujours, vaï et rêve, vaï voker, des moments de lumière, des moments d'obscurité, des moments de bénédiction et des moments de malédiction. Hachem natati lefanecha, parce que c'est ce que j'ai mis devant toi, nous dit le maître du monde, c'est la vie sur terre, personne ne peut échapper à ce matin, à ce soir et à ce matin. À ce moment-là, Vashevota el levavecha bechol agoyim asher idichacha Hashem elokecha shama. Viendra un jour, dit la Torah il y a 3500 ans, où malgré le fait que tu te trouveras exilé au milieu des goyim, au fin fond de la terre, un jour viendra où tu me ramèneras ton cœur. Ça veut dire que tu reviendras vers moi. Ve'achevota el levavecha motamo. Tu reviendras vers ton cœur, ce qui signifie en français moderne, tu prendras conscience. Bechol agoyim asher idichacha Hashem elokecha shama. Quel que soit l'éloignement dans lequel tu te trouveras. La Torah nous promet, selon l'expression connue des prophètes, qui lo yidach mimcha shum nedar. Personne ne restera à l'extérieur. Jusqu'au dernier des Juifs perdus au plus profond et au plus loin de son fantasme, de son illusion, chaque juif reviendra finalement à sa source, à son peuple, à son identité, sur sa terre et à l'intérieur de sa nation. Veshafta ad Hashem Elokecha, tu reviendras jusqu'à Hashem ton Dieu. Veshamata bekolo, shofar, et tu entendras ce son, tu entendras sa voix. Mais kol signifie un son plus qu'une voix. Tu entendras ce son finalement, ce son qui n'a cessé de retentir dans ton être, au plus profond de ton exil. Mais tu ne te donnais pas la peine de l'entendre, ce cri qui te disait « Reviens !» Un jour viendra où tu l'entendras, et reviendront des quatre coins de la terre toutes les étincelles perdues, et reviendront pour se reconstruire à l'intérieur de leur nation. « Kechol asher anochim et savecha ayom » et tu te mettras enfin à accomplir tout ce que je t'ordonne déjà depuis aujourd'hui, depuis il y a 3500 ans. Ata, toi, ou Bincha, ton fils, ou Banecha, tes fils, Bechol levavecha ou Bechol nafshecha, de tout ton cœur et de tout ton être. Veshav Hashem Elokecha et Shevutecha, mais sache, comme l'expliquent nos maîtres, et c'est la traduction exacte du verset, que Hashem reviendra avec vous. Vous aurez l'incroyable surprise de vous rendre compte que dans votre exil, Dieu était aussi en exil. L'exil d'Israël est l'exil de la Shrina, l'exil de la présence divine. Partout où un juif souffre, une partie du divin souffre avec lui. Partout où un juif est dans l'obscurité, c'est une partie du divin qui est elle-même dans l'obscurité. Le retour d'Israël est le retour de Dieu à sa propre lumière. Veshav Hashem Elokecha et Shevutecha, Hashem reviendra avec tes exilés. Vericha Mechash, et il pourra à nouveau t'aimer. Veshav, et il te ramènera. Vekibetzecha Mikol Ha'amim, il te rassemblera du milieu des peuples. Asher Efitzicha Hashem Elokecha Shama, puisque c'est lui qui t'avait exilé et éparpillé au milieu des peuples. Celui qui a été la cause de l'exil se chargera d'y mettre fin. C'est lui qui nous a envoyés en exil et c'est lui qui nous ramènera de l'exil. Même si tu es perdu dans les aspects les plus lointains du ciel, ça veut dire, traduit en français moderne, même si tu es un juif complètement assimilé, qui adhère à des idéologies célestes complètement farfelues, qui n'ont plus rien à voir avec l'identité juive authentique, ne t'inquiète pas. La Torah est tellement forte que même là-bas, elle ira te chercher. Rien ne résistera à la parole de Torah lorsqu'elle commencera à se dévoiler dans le monde. Misham yikabetzecha Hashem Elokecha. Il ira jusque là-bas te chercher. Ou Misham yikachecha. Et de là-bas, il te ramènera. Ve'aviacha Hashem Elokecha el haaretz asher yachshu avotecha. Hashem te ramènera sur la terre qu'il avait donnée à tes ancêtres. Ve'yerishta. Et tu t'y installeras. Ve'itivcha. Et il te fera du bien. Virbecha, et il te multipliera, mais avotera plus encore que ne l'ont été tes pères. Et le dernier verset, Umal Hashem Elokecha et Levavecha, Hashem purifiera ton cœur, vet Levav Zarecha, et le cœur de tous tes enfants et descendants, Leava et Hashem Elokecha, Bechol Levavecha ou Bechol Nafshecha, Leman Chayecha. Et enfin, tu pourras l'aimer de tout ton cœur et de tout ton être, et tu comprendras enfin qu'il est toute ta vie. Donc, si on lit ce genre de passage, toujours le Shabbat avant Rosh Hashanah, c'est donc clair que c'est une invitation à comprendre que l'existence n'a de sens que pour mériter un jour de voir la réalisation du retour d'Israël sur sa terre. Et c'est ce qui me permet juste de dire et de rajouter que si nous sommes aujourd'hui la génération qui a la possibilité de lire ce verset et ces versets à Jérusalem, Ashrenu Matov Chelkenu, combien nous devons dire merci à Hachem pour notre part. Pendant des siècles et des millénaires, dans les endroits les plus sombres et les plus cruels de l'exil, nos pères lisaient ces versets et les imaginaient se réaliser comme un rêve plus irréalisable que le plus irréalisable des rêves. Et voilà qu'aujourd'hui, à Jérusalem, des millions de juifs lisent ces versets et peuvent dire au maître du monde, ce que tu nous as promis, tu l'accomplis. Alors nous aussi, nous te promettons, Bezrat Hashem, de faire véritablement cette année, plus encore que tous les efforts possibles, pour te servir de toutes nos forces. Nous te disons merci Hashem d'avoir fait de nous ce que nous sommes. On se souhaite à tous une très 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 bonne année, une année nouvelle. On se retrouve, Bezrat Hashem, l'année prochaine avec des forces complètement nouvelles. Un très très bon Rosh Hashanah à tous. Amen.